l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le comité Nicaragua-Occitanie et ils sont quatre autour de la table. Alors, Christophe Maldidier, qui est le trésorier, Henri Ocdé, qui est membre de ce comité, bien sûr, et deux étudiants nicaraguayens, qui se sont joints à eux pour vous parler du Nicaragua, un sujet que nous ne trouvons pas souvent dans la presse nationale et régionale encore moins. Alors, bonjour donc à tous les quatre. Christophe, présentez-nous ce comité qui existe depuis 2018.
Oui, ben, écoutez, bonjour et merci de votre accueil. Le comité Nicaragua-Occitanie est constitué de militants français et nicaraguayens qui soutiennent les luttes du peuple nicaraguayen. On s'est formé en 2019, fin 2018, début 2019. Et quelle est notre mission ? D'abord, informer. Informer, en effet, vous l'avez dit, le Nicaragua, petit pays d'Amérique centrale, est peu connu. On n'en parle pas beaucoup dans les médias. Donc, nous vous souhaitons informer sur tout ce qui s'y passe. Deuxième chose, entretenir des liens et soutenir cette lutte. C'est un peuple qui, depuis ma collègue
Violetta
va expliquer tout ça. Mais il y a une insurrection civique en 2018 et nous voulons soutenir cette insurrection civique. Et puis, bien évidemment, nous accueillons des Nicaraguayens de passage, des résidents et tentons de les inclure dans tout ce travail de soutien aux luttes pour le Nicaragua.
Peut-être qu'il faut préciser aussi que parmi vous, il y a des chercheurs qui ont travaillé évidemment avec ce pays.
Quel est notre lien
avec... D'où vient votre intérêt ?
Ben oui, bien sûr. Ce sont des militants français qui ont souvent vécu au Nicaragua. Moi-même, j'ai passé 13 ans, vous imaginez, tout un morceau de ma vie. Henri a passé un autre paquet d'années. Et c'est ça qui nous lie évidemment à ce pays.
Oui, voilà. Moi j'ai passé 4 ans, je connais Cristobal depuis les années 80. J'y ai passé moi-même 4 ans au Nicaragua de 86 à 90. Et ensuite j'ai travaillé avec le Nicaragua de 90 à 2000 de façon plutôt épisodique et régulière. Donc nous connaissons un peu l'histoire de ce pays, de cette lutte, de ces luttes qu'ont menées.
Et vous avez gardé des contacts là-bas.
Et nous avons bien entendu non seulement des contacts mais des amis. Voilà. Profonds, des amis de longue date qui sont et qui vivent et qui essayent de survivre dans ce pays.
Oui.
D'où l'intérêt, bien sûr, de votre comité qui sait où il va.
Nous savons pertinemment où nous allons et nous avons décidé, même nous appuyons deux initiatives, deux projets très concrets. Le premier, c'est un musée de la mémoire contre l'impunité, qui est une association des Madres de Abril, un peu comme les Madres de Mayo au Chili. Donc,
Argentine.
Nous appuyons...
En
Argentine, pardon. Oui. d'autre part, on appuie un deuxième projet, c'est l'appui aux Nicaraguayens qui sont exilés au Costa Rica. Il y a peut-être, on en reparlera, mais il y a aujourd'hui 100 000 Nicaraguayens qui se sont exilés au Nicaragua... suite à l'insurrection et à la répression de 2018. Donc voilà deux projets concrets qu'on appuie avec le soutien donc de tous les donateurs qu'on arrive à mobiliser. Et cet argent va à des associations donc situées en Amérique centrale et avec lesquelles nous avons des liens directs et personnalisés. Nous connaissons tous ces gens engagés dans ces projets de solidarité.
C'est important de le préciser pour nos auditeurs.
Peut-être on pourra revenir sur le détail de ces deux projets en fin d'émission. Oui.
Alors, si nous avons le temps, bien sûr. Alors, vous avez apporté de la musique. De quoi s'agit-il, Violetta ?
Alors oui, bonjour. Cette musique, c'est une musique de Luis Enrique, un ancien artiste nicaraguayen, très connu par ses chansons à la Révolution sandiniste, mais qui aujourd'hui chante à la Révolution du 18 avril.
coro de estudiantes va marchando por las calles de nuestra Nicaragua. En sus pechos orgullosos va flameando la bandera azul y blanco.
En sus ojos brilla toda la hermosura de la luz que se desgaja de sus almas. Y prendida en el ojal de la ternura, la sonrisa gallarda de la patria.
Aquí terminaron las flores de abril, aquí vuelve a brillar el sol. Aquí ya no hay damas ni viejas consignas, aquí solo canta el amor. Aquí terminaron las flores de abril, aquí vuelve a brillar el sol.
Alors, nous avons entendu cette musique qui soutient le mouvement, évidemment, d'opposition à ce gouvernement. Et Henri Ocdé, maintenant, va... Ah non, je me trompe. D'abord, c'est Violetta qui nous a apporté cette musique, qui va continuer avec son compagnon, Smilton. Donc, tous les deux sont étudiants à Montpellier. Violetta, quelle branche avez-vous choisi comme
oui.
étude?
Bonjour à tous. Je suis à Montpellier depuis 5 ans et là, je suis en dernière année de mon master en sciences et technologies de l'eau. Et parallèlement, je suis activiste pour la protection de l'environnement et la défense des droits de l'homme. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu... Qu'est-ce qui se passe dans le Nicaragua depuis le 18 avril.
Et vous étudiez en quoi?
Et moi, ça fait 2 ans que je suis à Montpellier. Et l'année dernière, j'ai fait un master en management des universités. Cette année, j'ai fait un master en management des collectivités territoriales. C'est toujours dans les contextes des gouvernements. Et moi, en général, j'ai participé au Nicaragua dans des différentes associations, toujours dans les milieux écologistes. Et dans l'environnement, et ben, on va discuter sur la situation actuelle du Nicaragua.
Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Ok, donc on vous remercie encore de l'intérêt que vous portez au Nicaragua, mon pays, qui maintenant traverse une crise sociale depuis avril 2018, une crise qui a comme bilan 328 assassinés, 80 000 exilés et plus de 800 personnes arrêtées arbitrairement, accusées de terrorisme et de crimes organisés, des victimes de torture, des professionnels forcés à démissionner pour la seule raison de ne pas être d'accord avec le gouvernement. Donc, pour commencer, je vais vous situer un peu. Donc, le Parti sandiniste, c'est un parti qui a lutté contre la dictature somociste dans les années 80. Une des personnes qui a dirigé cette lutte, c'est le président actuel, qui est Daniel Ortega. Donc, Daniel Ortega, il a repris le pouvoir en 2006 et il est resté dans le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. En 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux événements très importants. L'incendie de la réserve de biosphère Indio Maíz, une très grande biosphère très importante pour le Nicaragua, localisée dans le sud, et la réforme des retraites, c'est-à-dire la réduction des pensions. C'est un sujet qui se connaît très bien en France en ce moment.
Oui.
En fait, ces deux événements ont fait que les jeunes se sont manifestés dans les rues pour la défense de l'environnement et la solidarité avec la répression des personnes âgées qui se manifestaient contre ces réformes des retraites. Donc maintenant, je vais vous bombarder un peu avec des dates précises pour vous situer un peu sur les premiers jours des manifestations et ce qui a traumatisé la population jusqu'à aujourd'hui. Donc, le 16 avril, c'est à Managua, la capitale, et León, une ville qui est située très proche de la capitale, où il y a eu des manifestations des universitaires qui ont été très violemment attaqués par les fanatiques d'Ortega. Ensuite, c'est les prochains jours que les universités privées comme publiques de Managua et León, tout ensemble, elles ont été prises par les étudiants. Les étudiants ont manifesté dans la rue. Ils ont été violemment attaqués par la police avec des gaz lacrymogènes, des balles de caoutchouc. Il y a eu notamment 37 étudiants qui ont perdu leur vue à cause des balles de caoutchouc. Donc, la résistance étudiante, elle a persisté. Mais c'est le 19 avril, vraiment, que la police reçoit l'ordre de tirer contre les étudiants. Le 19 avril, la nuit, il y a eu 3 étudiants qui ont mort à cause des tirs.
Qui sont morts à cause des tirs
de la police. Donc, la situation est devenue très critique. Le 20 et le 21 avril, les manifestants continuent dans la rue, malgré la répression. Le régime d'Ortega et Murillo envoient des tireurs qui se placent dans les bâtiments les plus hauts de la capitale. Ils commencent à tirer contre les jeunes dans les points cibles. C'était la tête et le thorax. Le but était vraiment d'assassiner les manifestants. En plus de ça, on peut aussi ajouter que les hôpitaux publics ont reçu l'ordre de refuser les soins des manifestants qui étaient blessés. Par exemple, il y a eu un enfant de 15 ans qui est mort parce qu'il a reçu une balle dans le cou. Et il faudrait aussi remarquer que cet enfant-là, il n'a pas reçu des soins et il a été refusé dans 2 hôpitaux publics, juste parce qu'il était un manifestant. Il faudrait dire aussi que c'est grâce à la technologie et les réseaux sociaux que les jeunes et la population commencent à s'organiser et dénoncer chaque crime commis par la police. Chaque personne qui est morte à cause d'un tir, chaque personne qui a été blessée, tout cela était dénoncé à travers les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que la population s'est organisée pour manifester encore plus, pour se mobiliser, pour savoir où étaient les tireurs. Donc les paysans, les étudiants, les féministes, les écologistes et les travailleurs publics comme privés se réunissent pour un seul objectif, c'était la sortie d'Ortega. Après toute cette douleur-là, tous ces morts, les manifestants voulaient juste la démission d'Ortega avec un président qui ne se prononçait pas et avec des rumeurs que la vice-présidente, c'est-à-dire son épouse, avait ordonné à la police de tirer contre les manifestants.
Alors ce mouvement de protestation a continué et s'est structuré.
Oui, c'est bien ce que vous avez dit, il s'est structuré. Au début, les jeunes, ils manifestaient devant les universités ou des manifestations très spontanées. Ensuite, les manifestations se sont plus dirigées à se protéger. Ils ont fait des barricades dans les rues. Les étudiants ont fait des barricades pour se protéger des balles. Ils demandaient à la population de leur fournir des soins médicaux, de l'alcool, du coton. Les étudiants qui étudiaient de la médecine ont fait des hôpitaux très spontanés,
pour donner
des soins, exactement. Donc, pour continuer, en mai, c'est un mois après tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu enfin un dialogue national dirigé par les évêques entre les représentants de la société civile et le gouvernement d'Ortega. Malgré cela, Ortega, il a été présent juste une seule fois pendant ce dialogue national. Et ce dialogue n'a pas abouti à une idée concrète ou des actions concrètes.
Mais actuellement, il y a une coalition nationale.
Bon, en fait, c'est à la suite de ce dialogue national que la coalition nationale est créée. D'un côté, on a l'Alliance civique et on a aussi l'ONAP, qui en général, ils sont les rassemblements d'à peu près 92 organisations de la société civile. Et qui se sont organisés, mais aussi il y a des groupes des exiliés qui se sont organisés à l'extérieur. Donc, à la suite de l'échec de ce dialogue, on voit qu'à l'international, tant à l'international comme au niveau national, il y a de nouvelles organisations qui se sont créées pour créer une proposition ou faire une force et balancer le pouvoir avec Ortega. Parce qu'après, UNAP, c'est la Union nationale Azul y Blanco, c'est l'Union nationale bleue et blanche. Et ils sont en train de se préparer pour se présenter à la prochaine élection de 2021.
Qui aura lieu ?
En 2021.
En 2021. Donc, voilà un mouvement qui progresse puisqu'il s'est bien structuré.
Oui, c'est un mouvement qui s'est bien organisé au niveau national, qui essaie de rattraper ou de balancer les pouvoirs qu'Ortega a jusqu'à maintenant, parce qu'Ortega, il a tous les pouvoirs de tout l'État. Il contrôle la police et les militaires, les tribunaux de justice. Et à la fin, c'est un pouvoir omniprésent. La Union nationale Azul y Blanco essaie de trouver à l'international les façons de faire la pression contre les régimes d'Ortega, dont les pressions les plus importantes, les plus remarquables, sont des sanctions des États-Unis et contre les fils d'Ortega, la vice-présidente qui est sa femme, et d'autres membres, soit du parti, soit des organisations, des ministres. Et la même ministre de la Santé, qui c'est elle qui a ordonné de ne pas soigner les manifestants. Et donc c'est les Nord-Américains qui enfin ont fait des sanctions les plus importantes. Au niveau européen, il y a des projets de loi et des projets de sanctions, mais qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été accordés par tous les États membres de l'Union européenne. Donc on ne sait pas encore en quel moment il y aura une pression très spécifique contre les régimes d'Ortega. Jusqu'à maintenant, je pense...
La pression internationale n'est pas encore suffisante.
Non, c'est ça. C'est bien le cas. Ortega, il a eu l'espace de faire tout ce qu'il a voulu faire. Et au niveau européen, il n'y a pas une pression très importante contre son régime.
Oui. Je voulais juste compléter un peu ce que tu dis. Il y a une intense répression. Il y a une intense répression qui a maté dans le sang donc cette insurrection civique. Au début, il y avait les étudiants, puis... Une grosse partie de la population s'est joint à cette insurrection. Elle a été matée dans le sang. Les deux dialogues qu'il y a eu entre le gouvernement Ortega et les opposants n'ont rien donné. Ces dialogues ont été en grande partie poussés par la pression internationale. Voyant ce qui se passait, par exemple, au Venezuela, Ortega a pris peur. Et donc, il a dit, je vais essayer de commencer à dialoguer avec ces gens-là. Je ne veux pas être expulsé rapidement du pouvoir. Et il a fait une intense répression. Donc, il a muselé la presse, il a empêché des ONG des droits de l'homme, des droits humains
de
fonctionner à Managua. Et il a emprisonné à peu près 900 personnes, des contestataires, qu'il a ensuite libéré au compte-gouttes. Tout ça a fait que, finalement, il a réussi à écraser l'opposition, mais... Dans des conditions très adverses, cette opposition a réussi à se structurer dans cette coalition. Et après 18 mois, cette coalition est née en janvier dernier. Et maintenant, il n'est plus du tout question. Il n'est plus question de faire sortir Ortega. Ortega a réussi à faire admettre l'idée que c'est par les urnes qu'on pouvait sortir de cette crise. Et donc, l'objectif de cette coalition, elle est électorale. Les élections sont prévues en novembre 2021. Et la coalition nationale va tenter de présenter une voie unique pour contrer Ortega et le démettre de son pouvoir par les urnes. Voilà un peu en quelques mots la situation aujourd'hui.
Voilà, et bien merci Christophe d'avoir complété ce tableau. Alors, nous allons peut-être écouter la musique que vous avez apportée à nouveau, Violetta.
Oui, maintenant, on va vous montrer un rap d'un jeune Nicaraguayen qui, en avril 2018, décide de dénoncer tous les crimes commis par le régime Ortega Murillo à travers de son rap et qui appelle les nouveaux les nouveaux artistes à aussi s'exprimer avec, à travers de l'art.
Yeah. Y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes que se están levantando para derrocar la dictadura de Daniel Ortega. Yo, plomo, plomo, patria libre y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja de vano, seco, plomo, plomo. Patria libre y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja de vano, seco, plomo. Nicaragua es poderosa con la gente que te roza. Recuerda que nosotros sacamos del poder a Somoza. Estoy en contra del abuso que a mi gente que están dando. El mismo pueblo que puso a Ortega hoy lo está matando. Socialista y solidario, no se me confunda. Con tu acto estás llevando nuestra patria a la tumba. Basta de discurso de paz y estás fomentando el odio. La juventud sandinista ha sido el peor microbio creado que se reproduce. Y nuestra patria a donde es que se conduce. Nos llevan a las cruces. Y por 200 pesos y un plato de comida, ¿cuántos jóvenes que están dispuestos a quitarle la vida? Un poco de ridículo, le faltan los testículos para que...
Alors nous sommes ici aussi pour vous inviter à une projection cinématographique qui va être organisée par le comité, donc le 27 février. Et Henri, pouvez-vous nous en parler?
Oui, oui, bien sûr que je peux en parler. Alors, je vais reprendre un peu le contexte. On a entendu Violetta qui nous a expliqué le démarrage de cette insurrection à Managua. À 8000 km de là, en Espagne, Daniel suit très attentivement ces événements, préoccupé comme beaucoup d'autres, quoi. Écrivain, journaliste, cinéaste, réalisateur, passionné de littérature.
C'est Daniel Rodriguez Moya.
Exactement, celui-là, c'est pas Daniel Ortega, évidemment. Il est co-directeur du Festival international de poésie à Granada, en Espagne. Et lui, il s'impatiente. Et au bout de 3 mois, il prend caméra, magnétophone, carnet de notes et il s'embarque une nouvelle fois pour le Nicaragua. Il connaît bien ce pays, il y a résidé, il y a travaillé, il a même rédigé une thèse sur un thème très précis au Nicaragua dont on pourra reparler par la suite. Et là, il passe tout le mois d'août, août 2018, au Nicaragua, dans la clandestinité, à l'encontre de tous ces acteurs, toute cette gamme de personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans cette insurrection civique, pacifique, j'insisterai. On n'a pas peut-être suffisamment souligné le côté pacifique. Des étudiants, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des individus qui agissent à titre personnel ou au contraire des responsables d'associations. Et aujourd'hui, Daniel Rodriguez nous livre un film poignant, un document unique et un document utile. Alors, il nous plonge dans l'ambiance angoissante de ce contexte de terreur des premiers mois de cette révolte sociale, puisque c'est en août qu'il y va. Daniel nous fait entendre la voix calme, pas comme la mienne, qui est enrouée. La voix calme, posée, mais douloureuse de ces jeunes étudiants, des parents de jeunes qui sont tués, assassinés, incarcérés, disparus, la voix de responsables paysans qui ont lutté pendant très longtemps contre le projet pharaonique du canal interocéanique et qui sont poursuivis, qui ont vu leurs biens confisqués. La voix de responsables d'organisations féministes, de responsables d'organisations environnementales, de responsables de droits de l'homme, de dirigeants de presse indépendante qui est de plus en plus bâillonnée, comme l'a mentionné Violetta, dont les locaux sont détruits par les bandes paramilitaires envoyées par Ortega. Les voix également de la hiérarchie catholique de Managua, principalement l'évêque auxiliaire de Managua, qui a été au bout de quelques mois invité par le pape à venir à Rome pour se protéger parce qu'il était menacé de mort. Donc avec Daniel Rodriguez Moya, On accompagne des médecins qui, au péril de leur vie, vont soigner dans la clandestinité des manifestants gravement blessés. Violette a mentionné l'exemple de cet enfant qui a été tué, qui n'a pas été soigné parce que les hôpitaux publics avaient ordre de ne soigner personne. Donc dans ce film, dans son documentaire, Daniel retrace également l'évolution de toutes les formes de répression qui est de plus en plus brutale et qui distille la peur dans la population, qui la pousse à se protéger, à se cacher. Lui-même mène ses entretiens en passant dans des maisons de sécurité. Donc cette population qui, de plus en plus au fil du temps, a peur et se protège. Daniel nous emmène également au Costa Rica, qui accueille ces milliers d'exilés, qui sont des milliers de personnes qui sont contraintes à l'exil, quoi. On y voit dans ce documentaire le profond décalage, l'incroyable déconnexion entre la vision des dirigeants Ortega Murillo, sa femme, qui occupe le poste de vice-présidente. Une déconnexion absolument impressionnante entre leur vision et celle de tous ceux qui réclament pacifiquement liberté, justice, fin de la répression, retour à la démocratie, départ du duo Ortega-Murillo, fin de la dictature.
Alors
là,
ça,
on est en août 2018. Quoi.
Voilà, alors et vous présentez ce cinéma.
Dans ce film. Oui.
Dans quel cinéma et à quelle heure?
Alors, ce film s'est présenté le 27 février au cinéma Utopia à Montpellier, à 20h. Donc, amis auditrices et auditeurs, venez pour vivre ces témoignages bouleversants, pour dialoguer avec le réalisateur, Daniel Rodriguez Moya, pour débattre tous ensemble et pour imaginer les formes de notre soutien à cette jeunesse qui déconcerte. Donc, au jeudi 27.
Voilà, donnez à nos auditeurs où on peut vous joindre.
Voilà, alors, pour nous écrire, pour entrer en contact avec nous, écrivez au comité.nicaragua.occitanie@gmail.com et que je répète comité.nicaragua.occitanie@gmail.com ou bien vous pouvez nous retrouver aussi sur le site de helloasso.com.
Voilà, alors je termine rapidement avec le calendrier. Jeudi 20 février à 19h à la Carmagnole, Contre-feu, un film de Christophe Cordier et Adeline Gonin. C'est la résistance sociale et syndicale en Palestine, le débat avec les réalisateurs et une syndicaliste ayant participé au voyage qui a été organisé par l'Union syndicale solidaire et le comité BDS France-Montpellier. Le dimanche 23 février à 15h à la salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot à Montpellier, a lieu le loto de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale. De nombreux lots, bien sûr, 15 kines dont une spéciale enfant. La vente de cartons se fera à partir de 14h30. Il y aura tombola, buvette, l'entrée est bien sûr libre. Vous aurez droit à avoir, au point de vue des lots, tablettes numériques, places de spectacle, bons d'achat, trottinettes d'enfants, jambon, panier garni, etc. etc.
Voyage au Nicaragua.
Mardi 25 février, à l'espace Martin Luther King, a lieu le café actualité du Centre Documentation Tiers-Monde, après le G5, sommet des pays du Sahel, enjeux internationaux et situation au Burkina, avec Irénée Dombouet, et également Jean-Claude Rouanet. Il y a aussi jeudi 27 février au cinéma Utopia, donc je rappelle, Nicaragua, oui. Patria libre para vivir, l'insurrection des petits-enfants de la révolution sandiniste.
À 20h.
Je rappelle aussi, mardi 18 février, Gazette Café, pesticides et agriculture, polémique et décryptage. C'est organisé par France Nature Environnement. Et jeudi 20 février, au Dôme, l'écoféminisme organisé par Women's Mark Montpellier France. Ensuite, nous avons une réunion du groupe de travail Alternativa sur l'annuaire des alternatives qui a lieu à 18h30 le jeudi 20 février au Faubourg, route de Nîmes. Je pense que je n'ai rien oublié, semble-t-il. Voilà, à bientôt, chers auditeurs.